Éco 24, la rubrique économique locale. Happy
Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Éco 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Deverlange, président et fondateur de Caviar de Neuvic, une entreprise française renommée dans la production de caviar d'excellence située en Dordogne. Caviar de Neuvic se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, de la responsabilité sociétale et du respect de l'environnement. Laurent, merci de nous rejoindre.
Avec plaisir, merci, bonjour à tous.
Première question, Laurent, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours personnel, pardon, parce que c'est important, je pense, et qu'est-ce qui vous a conduit à fonder Caviar de Neuvic en 2011, il me semble.
En 2011, en effet. Alors, je vais aller vite sur le parcours personnel parce que j'ai un peu d'expérience, on va dire, pour pas dire d'âge.
Je le vois, moi, il a 23 ans.
Ouais. 57 ans, en réalité. Trois grandes filles qui ont plus de 23 ans. Donc. Mais mon parcours, en quelques mots, moi, j'ai fait des études d'agriculture, j'ai fait un lycée agricole, puis une école d'ingénieur en agronomie qui s'appelle Oniris, à Nantes. Et ensuite, j'ai fait des métiers assez variés, du marketing dans l'agroalimentaire à Paris, de l'humanitaire, pour Médecins Sans Frontières un petit peu, de la banane au Cameroun, du jus de pamplemousse à Cuba, enfin plusieurs activités comme ça dans le développement économique plutôt, et puis de la finance après, j'étais directeur financier d'un groupe agroalimentaire, et j'ai travaillé ensuite dans un grand cabinet qui s'appelait Ernst & Young, qu'aujourd'hui on appelle sous le nom de EY, hein, les deux lettres, et à une quarantaine d'années, j'ai décidé de quitter pour créer mon projet. J'avais vraiment envie d'être pisciculteur, ça venait de très loin. C'est quand j'étais enfant, je voulais être pisciculteur. Bon, j'avais toujours été aquariophile, pêcheur, etc. Mais j'avais ce rêve d'être pisciculteur. C'est pour ça que j'avais fait le lycée agricole, c'était pour être pisciculteur. Et puis je me suis laissé embarquer par les études. Il n'y avait pas de longues études de pisciculture. Mes parents voulaient que je sois ingénieur d'abord. Enfin, donc je n'ai pas fait tout à fait ce que j'ai voulu. Et une étape dans la vie, on a envie de faire ce qu'on veut. Et voilà, je me suis lancé. J'ai trouvé d'abord un terrain, des investisseurs pour m'accompagner. Et après, j'ai donné ma démission quand même. J'ai été un grand, bien fait les choses dans l'ordre.
Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des spécificités de ce métier de pisciculteur et pourquoi l'avoir choisi la Dordogne pour ce métier ?
Alors, pisciculteur, je peux vous en parler. Pisciculteur d'esturgeon, c'est encore une autre spécificité. Et la Dordogne, bien évidemment. Alors, le métier de pisciculteur, c'est un métier de passionné, hein, puisqu'on travaille avec le vivant et on est au contact des animaux au quotidien. Ne pas les nourrir, ne pas surveiller leur oxygène. Enfin, c'est un travail qui demande beaucoup de soins et beaucoup d'attention. Celui du pisciculteur d'esturgeon, il est simplement encore un peu plus long parce que du coup, un cycle de vie total d'un esturgeon, et peut-être on y reviendra si la question vous intéresse, c'est une dizaine d'années quand même. Donc, entre la naissance de l'alevin et la transformation du poisson en chair et en caviar, il va se passer une dizaine d'années. Donc ce poisson-là, on va l'accompagner pendant 10 ans. Et c'est un métier intéressant du coup en esturgeon parce que du coup, on a des animaux qu'on garde longtemps. C'est quand même ça la spécificité. Et alors pourquoi la localisation à Neuvic en particulier ? Alors il y a deux raisons principales. La première, c'est une raison de qualité de site. Premièrement, on est sur une rivière, l'Ille, qui vient du plateau des Mille Vaches, qui traverse malheureusement peut-être pas beaucoup d'industrie, ou heureusement pour nous. En tout cas, en tant qu'utilisateur d'eau, très peu d'habitants aussi. Donc, c'est une eau qui est encore assez propre, abondante. Et on est aussi dans une zone où il y avait de l'esturgeon. Il y avait des esturgeons, une autre espèce, l'esturgeon atlantique. Ici, on appelait ça plutôt des créas, hein, localement, ou des créaques, selon les patois. Et les hommes préhistoriques, qu'on connaît très bien ici, puisque ce sont nos ancêtres dans les cavernes qu'on retrouve ici, ils mangeaient de l'esturgeon déjà à l'époque. Donc on est sur un terrain où il y a eu de l'esturgeon, et où du coup, en plus, il y a une culture, il y a d'autres élevages, il y a un centre de recherche qui est à Saint-Seurin-sur-l'Isle, qui est le centre français de la recherche de l'esturgeon, qui s'appelle d'ailleurs Centre de Recherche des Esturgeons et des Amphiliens, CREA. En France, l'administration aime bien faire des jeux de mots. Voilà, donc il y a cette opportunité territoriale, et après il y a une opportunité aussi temporelle ou spatio-temporelle que... Quand j'ai vraiment décidé de me lancer, il fallait que je trouve un terrain. J'ai cherché et je suis tombé par tous les biais possibles, c'est-à-dire le site aquaculteur.com, l'agence de développement du Périgord qui s'appelle Périgord Développement. Tous les sites qui parlent de pisciculture, il y avait une annonce, c'était toujours la même, pisciculture à vendre, avec autorisation d'élevage d'esturgeon. C'était parfait parce qu'en fait, l'élevage d'esturgeon et la pisciculture en général d'ailleurs, demande quand même des niveaux d'autorisation administrative assez importantes, en particulier sur l'eau, hein, puisque nous à Neuvic par exemple, on est utilisateur d'environ 2000 mètres cubes par heure d'eau, donc on prend dans la rivière, qu'on remet aussi dans la rivière, mais qui nous donne des devoirs sur la qualité, etc., sur les analyses. Et ça donne aussi des demandes d'autorisation qui sont très longues. Donc il y a 2 ans à peu près, 2 à 3 ans de demandes d'autorisation qui avaient déjà été faites, puisque le gars qui était là avant, il avait donc un terrain qui convenait parfaitement et il avait déjà préparé un dossier. Il voulait se lancer là-dedans, mais il n'a jamais réussi à lever l'argent, aller plus loin. Il avait l'idée, mais il n'avait pas...
Il avait les bases quand même.
Il avait les bases. Donc il a fait une partie de mon travail et je le remercie encore aujourd'hui. Enfin, je l'en ai remercié en lui achetant cher son terrain avec les autorisations. Mais en effet, il avait fait bien correctement une partie du boulot et ça me faisait gagner du temps. Voilà pour ça que je suis installé à Neuvik.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce qui garantit la qualité finale dans ce processus que vous menez à bien en 10 ans pour avoir au final un caviar de qualité?
Alors, d'abord, c'est pas comme de la mécanique de précision, vous savez, où vous réglez une machine et puis c'est fini. C'est du vivant, hein, c'est de l'élevage. Donc c'est un tout petit peu plus subjectif. Donc ce que je vous dis, c'est des critères. On les met tous les uns en face des autres en essayant de faire le mieux possible. Et le résultat, c'est la nature qui le donne. Hein. Mais au total, comme c'est un poisson qui vit très longtemps et qui vit dans l'eau, il y a déjà une chose importante, c'est la condition de la qualité de l'eau, hein, son milieu. Donc en élevage, on distingue plusieurs types d'élevage. Mais en gros, ici, à Neuvik, on a l'élevage qu'on appelle en circuit ouvert. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on prend autant d'eau dans la rivière. On dévie la rivière, on met les poissons dedans et on rentre dans la rivière en nettoyant l'eau. Mais c'est on fascinant. Rentre dans la rivière. Et donc, du coup, on a des poissons qui vivent comme s'ils étaient dans la rivière.
Ils ont dans leur milieu, en fait.
Voilà. Ah, donc, ils ont de l'eau froide l'hiver, ils ont de l'eau chaude l'été, ils ont des crues avec de l'eau trouble, ils ont de l'eau claire. Tout dépend de la saison. Ils vivent comme s'ils étaient dans la rivière. Ça, c'est une qualité. Puisqu'on peut faire aussi de la recirculation, c'est-à-dire on utilise toujours la même eau, on la met à 20 degrés, comme ça ils grandissent plus vite, et puis on rajoute des produits dans l'eau si on veut en plus, et les poissons sont en meilleure forme, mais c'est la même chose que d'élever des bovins dans un hangar ou dans un plein champ. Voilà, donc nous on a choisi le circuit ouvert. Déjà, ça c'était un premier critère de qualité, je pense. Enfin si, c'est assez reconnu d'ailleurs que le circuit ouvert est un critère de qualité. La deuxième chose, c'est la qualité de l'eau, mais je vous en ai parlé, on est sur une bonne rivière, parce qu'elle n'est pas sale, elle est bien, elle est très calcaire aussi, qui nous donne des œufs un peu plus clairs en général que les gens qui sont sur des eaux acides. Et puis après, les autres critères qui rentrent en ligne de compte, il y a deuxièmement l'alimentation. Et ça c'est très important de bien nourrir pendant 10 ans ces poissons.
Oui,
c'est la seule chose, c'est le principal contact qu'ils ont. Donc ça, c'est très important et on y apporte énormément de soins. Et le dernier point, c'est les conditions d'élevage. Donc évidemment, la première, c'est la densité. La densité, ça compte énormément dans un élevage. Si vous mettez 4 poules dans un mètre carré ou 50 ou des poules en plein air, c'est pas la même chose. Donc il faut travailler sur ce sujet-là et toutes les conditions d'élevage du poisson. Alors, on n'est pas sûr que ça améliore la qualité du caviar, mais en tout cas, c'est comme
important
ça que
pour
nous,
le poisson.
Voilà, nous, on pense que ce qu'on donne au poisson, le poisson va nous le rendre, peut-être naïvement, mais du coup, on travaille à son... J'aime pas le mot bien-être, mais en France, on utilise bien-être animal, qui est une traduction de welfare, hein, un mot anglais qui veut... Mais en fait, on pourrait parler plutôt de respect. Nous, chez nous, on essaie de dire le respect du poisson, et ça, c'est important, et je pense que ça joue aussi dans la qualité.
Comme chez les bovins, quelque part, hein, il faut respecter l'animal.
Exactement, je pense, dans tous les élevages, et ne serait-ce que parce que c'est eux qui nous nourrissent, hein, donc on a intérêt quand même à les respecter.
Tout à fait. Il me semble que justement, par rapport à tout ça, vous avez eu une certification en 2023, vous avez bien eu la B-Corp, si mes informations sont...
Oui, c'est ça. Alors, c'est la certification B-Corp, qui est une certification internationale. Alors, c'est pas encore très connu en France, mais c'est la reconnaissance d'un travail que l'on fait depuis des années. B-Corp, c'est la plus belle emblème de B-Corp, et d'ailleurs le modèle de toutes les entreprises B-Corp, c'est Patagonia, une société américaine qui a une note B-Corp très élevée, qui a beaucoup inspiré les autres entreprises américaines. Donc il y a une association Utopia qui s'est créée pour un capitalisme différent en fait. Donc c'était un peu, en France on a eu notre loi Pacte avec les entreprises à mission, dont on a également, on s'est engagé dans ce créneau-là d'entreprises à mission. Mais aux États-Unis c'est passé par ça, alors ils appelaient ça Benefit Corporation, B-Corp, et c'est comme ça que c'est devenu un certificat labellisé par une association. Ce qui est intéressant dans B-Corp, c'est que... c'est un standard international qui reporte sur 5 grands piliers principaux. Et donc, c'est très large. Ça va de la gouvernance à l'environnement, les déchets, la collectivité et les collaborateurs. Et sur chacun de ces piliers-là, bah, il faut atteindre un certain niveau d'excellence. Donc, on y travaille, on améliore. Et puis, quand on a des bonnes notes, on peut demander une certification.
Ça va être un travail de chaque jour. Mais vous avez aussi lancé en 2021 du caviar biologique. Est-ce que c'est un défi pour obtenir sa certification bio? Je sais que pour la vanille, par exemple, c'est dur de l'avoir, même si ça ne change rien, malheureusement, à la qualité de la vanille finale. Est-ce que là, ça change quelque chose aussi?
Alors non, tout de suite, non, ça ne change rien. Ça ne change rien et aussi, ce n'est pas une fin en soi. Ce que je veux dire, c'est que nous, on était contents de demander cette certification parce qu'en effet, elle est très difficile à obtenir. Elle demande justement des conditions d'alimentation, des conditions de traitement des poissons, hein, bien sûr. Les antibiotiques sont interdits, comme tous les traitements phytosanitaires. Et la densité, je vous en ai parlé tout à l'heure, la densité, elle est très stricte. Elle est à peu près à la moitié de ce que se fait en élevage dans le reste de la France.
Donc très peu de poissons par bassin.
Beaucoup moins de poissons, ça en fait encore beaucoup parce qu'on est en élevage.
Oui,
quand
bien
même.
Sûr, bien sûr.
Mais deux fois moins que les confrères, ça fait, c'est dur parce que ça veut dire qu'il faut deux fois plus investir pour produire la même
moins
chose.
Moins de rentabilité, hein. Évidemment.
Voilà. Donc d'obtenir cette label, ça permettait de valider toutes ces choses qu'on avait fait. La densité, la bonne alimentation, l'absence de traitement. Mais ça doit être qu'une étape. Parce que le bio n'est pas une fin en soi. D'abord, les gens n'attendent pas du caviar bio. Ça ne veut rien dire de particulier, comme du champagne bio. C'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas ce qui fait vendre un champagne ou un caviar. Et puis ensuite, le bio, c'est des règles et c'est aussi des limites. Donc si on veut aller plus loin, nous, il va falloir qu'on réfléchisse encore plus loin. Par exemple, sur l'alimentation, notre alimentation, elle est bio. Donc ça veut dire que c'est que des aliments bio, constitués de farine de poisson, qui sont des écarts de production de poisson. Mais par exemple, c'est interdit d'y mettre de l'insecte.
Ouais.
Puisque l'insecte, c'est de l'élevage. C'est de l'élevage en circuit fermé, l'insecte, donc c'est pas bio. Donc c'est interdit de mettre des insectes. C'est interdit d'y mettre des levures, d'y rajouter. Vous savez, on peut faire des algues aussi pour remplacer les protéines animales. Ça, c'est interdit. Donc, bio, c'est bien, c'est une étape. On était super contents, on est toujours super contents d'être labellisé. Mais je pense qu'on va devoir aller plus loin. Et nos engagements passeront sans doute aussi par la sortie du bio.
Je vois que vous essayez de faire des innovations en permanence. Par le bio, par exemple, c'est un très bon exemple parce que vous êtes même arrivé à ça et vous dites qu'il faut qu'on aille plus loin quand même. Ouais. J'ai aussi vu que vous aviez des panneaux photovoltaïques sur vos bassins d'élevage. Est-ce que ça apporte un avantage, quelque chose à l'entreprise même?
Ah oui, absolument. Alors, à l'entreprise en direct, non.
Au poisson, mais au poisson, oui. Si, au poisson, justement.
Ah, oui,
ah, j'aurais pensé que c'était plus électrique.
Non, énormément, puisque en fait, depuis la création de l'entreprise et la construction des bassins, moi je cherchais une solution pour mettre les poissons à l'ombre. D'accord. Parce que l'esturgeon, c'est un poisson qui vit au fond, hein, on a dit benthique en termes de poisson, c'est-à-dire un poisson qui vit sur le fond, et il vit généralement sur des fonds entre 5 et 10 mètres de profondeur, donc il y a très peu de lumière. Donc quand il se retrouve dans des bassins à 1,50 m, c'est à peu près la profondeur de nos bassins, il a beaucoup plus de lumière sur la tête. Surtout quand il n'y a pas de crue, que l'eau est très claire, l'eau de l'île des fois elle est très claire. Là il prend le soleil plein fer, et c'est comme si vous faites une cour de récréation de maternelle sans mettre un arbre ou un préau.
Ou un préau,
ouais. Les gens, ils ne peuvent pas s'échapper en plus, ils sont dans la cour toute la journée. Donc on cherchait des solutions, et même les vétérinaires, enfin tout le monde sait que l'ombre est un facteur de réduction du stress et de bien-être pour nos animaux. Donc on cherchait des solutions, et un jour on l'a trouvé en couvrant en photovoltaïque, ce qui est une opération tout à fait blanche au niveau économique pour l'entreprise, mais tout à fait positive pour les poissons, pour le réchauffement de l'eau par le soleil, pour le travail des salariés, enfin, on a trouvé des dizaines d'avantages.
Même pour le travail des salariés, ça m'intéresse.
Ah oui, c'est quand même très pratique.
C'est pratique pour eux d'avoir de l'ombre.
C'est quand même beaucoup
en fait.
Mieux d'avoir un toit, de travailler à l'abri quand il pleut. Ouais. Parce qu'on travaille principalement les poissons en plus en hiver. Hein. Là, actuellement, on est encore en train de terminer le sexage, c'est-à-dire l'étape où on trie les poissons un par un. On vérifie leur sexe. On passe déjà la journée avec l'échographie au bord de l'eau. Si en plus on est sous la pluie.
Ouais, c'est pas possible.
C'est possible, on l'a fait.
Oui, sans... mais c'est pas agréable.
Mais c'est pas agréable. Ouais. C'est beaucoup mieux quand c'est couvert. Donc c'était une belle opération. Et puis on y gagne de l'électricité pour la France parce que ça produit quand même quelques. Alors les unités en électricité, c'est mégawatts, gigawatts, c'est kilowatts, très compliqué.
Bien sûr. Bon.
En fait, en gros, c'est la consommation de 2700 habitants qui est produite à Neuvik. C'est la plus grosse ferme aquacole. Photovoltaïque d'Europe et ça produit beaucoup d'énergie donc il y a un investisseur qui a payé l'installation des panneaux et puis nous on a profité de l'ombre simplement et lui il vend l'énergie.
C'était que du positif.
C'est très positif et y compris même pour l'environnement parce que on a essayé de les intégrer correctement, de rajouter des corridors pour les animaux. Si vous voulez je rentre très dans le détail là-dessus. Je voulais juste finir sur les panneaux en disant que marginalement à ce gros projet, parce que c'est un très gros projet quand même, nous on a monté aussi en parallèle un petit projet privé où là on a acheté nos panneaux, on a couvert un petit hangar de 1000 m² et là on produit notre autoconsommation électrique.
Pour vous.
Donc, Au niveau économique, on a aussi joué le jeu de tenter quelque chose. On a investi là-dedans, on a récupéré l'énergie. D'ailleurs, avec la flambée des cours qu'on a vécu post-Covid, là, on était bien contents de produire un quart de notre consommation énergétique. C'était quand même bien pratique. Pour en revenir sur la biodiversité, si ça vous intéresse.
Bien sûr, les corridors. Mais
j'espère que vous avez 4 heures.
J'ai tout mon temps. Là.
Non, mais c'est très important parce que la sustainability, c'est-à-dire la durabilité, voilà, de l'élevage, ça passe par une intégration dans un milieu. Nous, notre milieu, il est très beau parce qu'on a la chance d'être bordé par l'île d'un côté, le Vern de l'autre, sur une bande de terre de 20 hectares magnifique. Mais ça nous donne des engagements aussi parce que les deux rives, c'est des rives où il y a des animaux qui vivent ou qui doivent se déplacer ou qui essayent de survivre ou de se reproduire. Et donc, nous, on a une activité quand même industrielle au milieu, c'est-à-dire on a des machines, on tourne. Donc, c'est très important d'essayer de donner de la vie dans cet espace-là. Et donc, là, on y a beaucoup travaillé. On a de la chance, c'est d'avoir un très bon animateur Natura 2000 sur la zone, que je remercie parce qu'il est vraiment très bien. Le Conservatoire des espèces naturelles, la LPO, enfin bon, on a vraiment en France beaucoup de gens très engagés dans ce secteur-là et on s'est appuyé sur eux pour travailler, pour créer des réserves de biodiversité, c'est-à-dire des îlots à l'intérieur de notre piscicule, de notre terrain, qui soient des endroits où les animaux ne sont pas dérangés. On y met de l'eau, des pierres, des arbres, des feuilles mortes, etc.
Chose de naturel.
Très naturel. On aménage un peu pour que ce soit naturel, mais pratique pour qu'ils se reproduisent quand même.
Bien sûr.
Et puis après, on n'y touche plus. Enfin, il y a un minimum d'entretien. Simplement, on vient y faire des inventaires de biodiversité pour voir ce qu'il y a. Et on est surpris à chaque fois. La dernière inventaire, c'était au printemps dernier, je crois. C'est les étudiants en écologie du lycée agricole de Colomiers-Chamiers qui sont venus et qui ont dénombré dans une seule de nos réserves, on en a trois, 12 espèces qui sont en liste rouge de l'UICN, c'est-à-dire la liste des espèces en voie de disparition, dont le fameux cuivré des marais, qui est un papillon qui a pratiquement disparu du Périgord. Donc on est super content d'avoir des trucs comme ça. Alors, c'est pas des mammouths, des papillons, des salamandres, des lézards, des serpents.
Pour moi, ça prouve que vous n'êtes pas seulement fan des esturgeons, vous êtes aussi fan de la nature.
Ah oui, la nature, c'est notre passion. Et il y a 15 jours, dans nos caméras, on a vu qu'une loutre avait eu deux petits là, au fond du domaine. C'est beau une loutre. Alors un pisciculteur, en général, ça fait peur parce que c'est un prédateur des poissons. Mais en fait, ça prélève quand même assez peu. Les hérons et les cormorans nous font beaucoup plus peur. Et c'est joli. Et donc, on est très content qu'elle se soit installée sur le Vern. Et je suis pas encore, je sais même pas si c'est encore connu que la loutre est revenue chez nous. Mais nous, on
pas
les a
assez,
vus.
Mais
on a
ça
les images et
oui,
tout.
Oui. C'est paru dans le journal, des choses comme ça.
Ouais, vous en parlez un peu.
On en parle un peu.
Ben là, on a donc la vidéo avec la mère et ses deux petits. Et c'est vraiment très sympa.
Je ne sais pas si c'est très français d'aimer la nature, mais je sais que c'est très présent sur notre territoire. Est-ce que le caviar peut être exporté à l'international? Est-ce que c'est quelque chose de connu?
Oui, alors le caviar, bien sûr, ça s'exporte à l'international, d'autant plus que c'est un peu né en France. C'est un produit d'origine russe, puisqu'à l'époque, c'était principalement un produit religion. C'est un produit maigre, un abat de poisson, donc très maigre, et c'était réservé aux fêtes religieuses des orthodoxes. Et donc, ces gens-là vivaient principalement en Russie. Quand les bolcheviks ont imposé une nouvelle religion que l'orthodoxie, hein, c'était le marxisme. Et on dit, bon, les orthodoxes, c'est fini. Il y en a quand même beaucoup qui ont quitté leur pays. Quelques-uns qui sont réfugiés en France, beaucoup même. Et ils ont amené cette tradition avec eux dans les années 20. Et c'est ce qui a fait naître la passion du caviar et ce qui a fait basculer le caviar dans une connotation festive, luxe, gay. Voilà. Et Paris est en centre du monde dans les années 20 à 30. Ça fait que Paris est devenu le capital du caviar. Et donc à aujourd'hui, forcément, le caviar français s'exporte un petit peu dans le monde. Mais c'est quand même, à la fois, pendant des années, ça a été, on était un peu le phare de l'aquaculture de l'esturgeon, de la production de caviar. Entre-temps, il est arrivé quand même une révolution importante, c'est l'arrivée des Chinois, qui produisent de tout,
bien
sauf
sûr,
de la radio.
En grande quantité. Ah, si, si, aussi.
Bien sûr.
Ils peuvent
en quantité monstrueuse. Bien voilà, sûr. Donc la France étant. Avec l'Italie, on se tenait depuis les années 90, on produisait du caviar en France et en Italie, on était les leaders mondiaux. Et aujourd'hui, les Chinois sont arrivés, ils produisent. 5 fois plus que la France et l'Italie réunies d'un coup.
Mais en termes
sans
de qualité...
en consommer d'ailleurs, hein, c'était juste pour vendre en France.
En termes de qualité, on en est où?
Alors en termes de qualité, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les mêmes engagements que nous, parce que chacun ses engagements, chacun sa culture, chacun ses valeurs. C'est surtout que c'est pas les mêmes espèces, donc c'est pas tout à fait le même produit. Il vient pas du même endroit, c'est pas la même contrôle sur l'alimentation. Voilà, c'est un produit différent. On peut pas critiquer, on peut pas dire que c'est un produit forcément mauvais ou... Mais simplement, il faut faire la différence entre un caviar chinois et un caviar français. Déjà, généralement, ce ne sont pas les mêmes espèces.
J'avais déjà vu des photos, c'est même pas les mêmes grains.
Oui, voilà. En général, c'est un hybride entre deux espèces. Ils ont hybridé du Schrenki et du Doricus, deux espèces qui sont très bien, hein. et qui donne, en s'hybridant, un poisson qui donne rapidement son caviar avec des gros œufs très croquants. Donc en plus, dans l'alimentation, ils rajoutent quand même pas mal de trucs, y compris des additifs antioxydants qu'on n'utilise pas en Europe. Et du coup, ils ont un grain très croquant, très jaune, très beau. Donc visuellement, très bien. Au niveau du goût, si on compare à l'aveugle, il n'y a quand même pas photo, c'est pas vraiment le goût de caviar, mais c'est beau. Et quand c'est juste pour décorer un plat, ça fonctionne très bien.
Ça a le mérite d'être là.
Exactement. Donc voilà, notre concurrence s'est développée et du coup, il faut être encore plus fort. Et c'est pour ça que nos valeurs sont importantes, parce que finalement, les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une marque, une société, une valeur. Et ce qui doit transparaître dans un produit, c'est ce qu'on porte derrière. On n'est pas juste du caviar au siècle ou du... On est du caviar de Neuvik. C'est pour ça que nous, on essaye d'éviter les labels, les appellations, etc. Ce qui est important, c'est la marque. Parce que la marque, c'est quand même synonyme des valeurs.
C'est le produit que vous allez rendre qui est important.
C'est ça.
Bien sûr. Ma dernière question pour conclure, c'était est-ce que vous aviez des petits conseils à donner aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans ce secteur-là? Je sais que vous êtes du coup lancé un peu sur le tard. Est-ce que vous avez envie de donner envie aux gens de faire ce métier-là?
Alors déjà, en règle générale, je vais dire que ceux qui veulent entreprendre, il faut le faire. Il n'y a pas d'âge. Et si vous commencez à vous dire ouais, je vais faire mon expérience, après je rentre dans un grand groupe, après je fais une PME, etc. Et puis un jour je crée ma boîte, non, ça ne sert à rien. Il faut démarrer. La deuxième chose, c'est que de toute façon, quand on vit sa passion, on ne travaille pas en fait. On fait ce qui nous plaît. Donc quand on se lève le matin, c'est on ne traîne pas les pieds pour aller au travail. Donc la première chose, j'espère que vous vivez la radio avec passion.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc ça, c'est un conseil très important. Et des fois, en tant que salarié, on n'est pas à sa place. Et quand on est dans cette situation-là, il ne faut pas hésiter à créer sa société. Après, évidemment, c'est compliqué. Évidemment, on a des déconvenues. Il y a des moments difficiles. Rien n'est simple. Mais si vous faites ça avec l'impression de faire ce qui vous plaît, c'est quand même très différent. Et après, se lancer en aquaculture, bien sûr, il faut, parce qu'on manque de poissons d'élevage. Il faut se lancer en aquaculture. Maintenant, l'aquaculture en France, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et là aussi, on est très concurrencé. Maintenant, les truites viennent de Turquie, les dorades viennent de Grèce. Enfin, c'est la catastrophe.
C'est peut-être un des conseils, ça, de garder quelque chose d'originel, on va dire, de quelque chose de naturel.
Ouais. Alors après, c'est pas parce qu'on est local qu'on est meilleur, souvent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire ce qui nous plaît. Moi, j'ai rencontré récemment un de nos anciens salariés qui a fait son alternance en pisciculture chez nous. Il a passé son BTS. Et là, il monte sa ferme d'élevage de crevettes en Bretagne. C'est super. Je suis très content pour lui. Voilà. Et
on est sûr que ça va réussir, bien sûr.
Et ça va être dur. Il a un travail à côté, il monte son projet en parallèle.
Et vous sentez qu'il y a la passion derrière.
Il doit négocier avec les banques. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais ouais, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Après, il y a beaucoup de gens qui vous suivront. Quand vous vivez vos passions, les gens le sentent et vous suivent, en général. Un autre conseil, quand même, c'est de bien s'entourer au niveau capitalistique. Parce que souvent, on considère que ma boîte, c'est ma boîte, il faut que je trouve de l'argent. Merde, comment je vais faire, etc. Non, le capital d'une société, c'est la fondation d'une société. C'est ce que vous construisez avant de construire la maison. Donc, il faut y passer un peu de soin. Il faut réfléchir. Est-ce que je les veux profondes et solides parce que j'ai besoin d'argent? Parce qu'une fois que j'aurai mis les poissons dans les bassins, si j'ai pas de quoi les nourrir pendant 10 ans, comment je fais, quoi? Donc, qui je veux avoir avec moi dans ce capital? Qu'est-ce que je suis prêt à leur laisser, etc. Ça, je pense que souvent, c'est en France un sujet qui est assez maltraité parce que les gens pensent que c'est un mal nécessaire d'avoir du capital. En fait, c'est le plus important. C'est de bien commencer par ça, bien travailler avec qui on veut travailler, comment, est-ce que j'aurai assez d'argent pour aller au bout et pour construire des fondations solides. Sinon, c'est les maisons des trois petits cochons.
Ouais, pensez à anticiper.
Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Deverlange, d'avoir été avec nous. J'ai l'impression que le mot d'ordre, du coup, de notre échange, c'est la passion. C'est ce qui vous anime,
peut-être.
La passion de la nature, j'ai l'impression. C'est un bonheur d'avoir été avec vous sur Eco24. J'espère qu'on pourra refaire ça, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser.
Avec grand plaisir, on fera une journée, un marathon de 24 heures, si vous voulez.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je dis à nos auditeurs qui peuvent réécouter et réécouter encore une fois cette rubrique sur le site apiradio.fr, et on leur dit au revoir à la prochaine.
À la prochaine, ou à Neuvik pour venir nous visiter, puisque ça se visite toute l'année.
Très, très bonne idée, j'irai faire un tour. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Eco24, la rubrique économique locale. Happy Radio.